Michael Moorcock, you know, he wrote...
Michael Moorcock écrit la plupart des paroles, et à cette époque, il écrivait de la science-fiction. Donc il était très sensible aux profondeurs de l'espace. Mais ce n'était qu'un groupe de rock qui chantait ce qui lui passait par la tête. Et c'est pareil pour la musique. Je les aime vraiment. C'était juste une manière de dépeindre des visions psychédéliques où ils pouvaient élargir l'univers et où tout le monde pouvait se libérer.
Je crois que Hawkwind est un vrai carrefour. Il saisit quelque chose de l'époque, c'est-à-dire de ce qui s'est passé un peu avant, ce côté justement un peu hippie, un peu plus hippie que sans doute que cosmique, mais qu'il prend ça, qu'il l'allonge et qu'il commence aussi à avoir un son un peu plus rugueux, un peu plus dur. Et en plus, Hawkwind est anglais. Il y a peu d'exemples, à mon sens, anglais de ça. C'est comme si c'était une version un peu plus dure de ce qui se passait en Allemagne, comme un reflet un peu plus métallique.
L'imaginaire musical de le mouvement de l'univers entier peut aussi se exprimer avec un rythme basique de rock anglais. Et voilà ce qu'est Hawkwind.
Mais c'est encore Pink Floyd, avec sa mission vers la face cachée de la Lune, qui fait planer la Terre entière au cours du voyage immobile le plus célèbre de l'histoire du rock. En Allemagne, si on plane également, la raison de ce désir urgent d'évasion n'a pas la même origine.
En Allemagne de l'Ouest, à cette époque, que ce soit à Hambourg, Munich, Düsseldorf ou Cologne, les jeunes musiciens étaient tous un peu dans le même état d'esprit. C'était en réaction à la Seconde Guerre mondiale. Et cette génération, arrivée à l'âge adulte, disait « Nous devons créer une musique qui prend ses racines en Allemagne de l'Ouest ». Et cela impliquait des formes et des alternatives au rock anglo-américain conditionné par le blues.
La table rase, je pense, qu'invoquent ces musiciens, c'est plutôt de l'ordre de quelque chose qui est très gênant, effectivement, et qui n'a jamais d'ailleurs été abordé de front. C'est qu'est-ce qu'ont fait les parents, de quel côté étaient les parents de ces musiciens, de quel côté était leur famille, dans quel univers nazi ou anti-nazi ils sont nés.
Il y a cette volonté d'aller chercher l'ailleurs parce qu'on a des comptes à régler avec ce qu'il y avait avant. Les formats qui dominaient avant étaient des formats plutôt courts. Et là, la longueur domine.
Ce sont des musiques qui ont vraiment commencé à construire autre chose et ça a beaucoup énervé les critiques de rock anglais ou américain. Je crois que c'est Lester Bangs qui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ces Allemands, avec ces machines ? Ils sont en train de tuer le rock, ils sont en train de nous voler le rock, notre rock à nous, hein, qui était né effectivement dans les années 50 aux États-Unis. »
La Kosmische Musik, cette version germanique du rock cosmique, est née à Berlin, au cœur de cette ville qui symbolise la séparation des deux mondes, l'Est et l'Ouest.
À Berlin, ça s'est manifesté par le space rock. On laisse le blues derrière soi, sur la Terre, et on voyage avec son instrument à travers l'espace, en créant une nouvelle musique sans contours, flottante, gazeuse, pleine de couleurs.
C'est pas on a marché sur la Lune, mais on va vers la Lune. Et c'est ce qui est important, c'est ça, c'est ce processus de la première note à la dernière note du disque qui mène vers la Lune. Et on n'a même pas envie de savoir s'ils sont arrivés, mais c'est juste ce voyage-là qui compte.
Le rock allemand est le plus novateur de la décennie 70. À Cologne, le groupe Can invente une nouvelle forme de trance, et son studio n'est pas baptisé Inner Space par hasard. Car leurs recherches sont plus volontiers tournées vers l'intérieur qu'en direction des étoiles.
Qu'est-ce qui se cache derrière cette musique-là aussi? C'est qu'on veut oublier la réalité, en fait. On veut passer dans autre chose, on veut passer derrière le rideau de ce quotidien qui est quand même extrêmement sombre. Cette musique, elle est là pour faire oublier. C'est une musique de, comme le blues a pu l'être, le blues des origines l'a pu l'être pour les Noirs américains du sud des États-Unis. C'est une musique d'exorcisme du quotidien aussi.
C'est encore en repli fœtal que le Cosmic Rock poursuivra ses odyssées mentales bien au-delà des années 70, notamment chez les Anglais. À travers une génération perdue de groupes qui rêvent elles aussi d'espace, mais pour y satelliser une rage intérieure trop pesante.
Il y a, au milieu des années 80, des groupes qui reprennent un peu ces motifs psychédéliques, mais il y en a notamment un, Spaceman 3, et ensuite, qui devient ensuite Spiritualized. Eux, ils sont dans un usage de la musique qui est totalement apolitique. On est beaucoup sur de l'intime, sur de la blessure, et c'est comme si la musique permettait au groupe d'aller ailleurs. Et ensuite Spiritualized a affiné la formule et jusqu'à l'album, le troisième album du groupe qui s'appelait Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Et où là, carrément, la biographie du chanteur qui à ce moment-là subit une rupture infuse le disque et il utilise le cosmique pour finalement essayer de cautériser son état.
La musique afro-américaine, quant à elle, repart souvent en mission lointaine, toujours guidée par l'increvable Sun Ra, qui a trouvé le slogan qui résume sa longue expédition. Space is the place.
Cette volonté cosmique, en fait, c'est presque de rajouter un troisième continent au continent noir américain et au continent noir africain. C'est de rajouter un continent alors, qui, certes, va être extrêmement mythique, hein, parce que là, on est encore une fois dans une sorte d'exorcisme, mais ça va être une façon de s'évader de ces contingences qui sont ô combien difficiles à vivre.
Is different here. The vibrations are different. Not like Planet Rave. Planet Rave's sound of guns, anger, frustration. There was no one to talk to from Planet Rave, if you understand. We set up a colony for black people here.
On est vraiment dans cette idée que l'homme noir viendrait d'ailleurs, ou en tout cas aurait une destinée différente, et que cette destinée passe par le cosmos. C'est un peu l'imaginaire que vont reprendre des gens comme Funkadelic quelques années plus tard, et toute la mouvance qui va venir ensuite dans les années 80 et 90, même de la techno.
Si leurs revendications d'origine n'ont pas changé, les musiciens noirs des années 70 et 80 transforment l'espace en un vaste lieu de plaisir joyeux et d'émancipation hédoniste. Notamment le funk de Funkadelic et Parliament, sous l'impulsion du gourou George Clinton, qui s'est mis en tête de faire danser toutes les planètes sous le même groove. Bien plus tard, lorsque les Noirs de tous les continents créeront une sorte de diaspora cosmique, celle-ci finira par porter un nom, l'afrofuturisme. Et s'élargira à tous les champs d'expression, imposant une pop culture alternative à celle dominée par les Blancs depuis un demi-siècle. À la fantaisie cosmique, Jill Scott Heron opposera une vision plus réaliste de la condition des Noirs sur Terre, pendant que les Blancs s'amusent sur la Lune.
With all that money I made last year for Whitey on the moon, how come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, airmail special, to Whitey on the moon.
Quand on est afro-américain ou noir britannique, on ne se dit pas que les années 50 étaient formidables, ni les années 60, ni les années 70. C'était des époques terribles. Discrimination, oppression, lutte pour les droits civiques, et le présent n'est pas reluisant si on est une personne noire. Mais dans le futur, peut-être qu'il y a un espoir, et pour moi, c'est la raison pour laquelle on trouve autant de noirs à l'avant-garde de l'électronique. Parce qu'ils ont un véritable enjeu à s'investir dans l'avenir, pour la possibilité d'un autre avenir.
Dans les années 70, c'est à la mode. Toutes les musiques sont affublées du mot cosmique. La country est cosmique, le jazz est cosmique, et même le reggae, qui à travers le dub a élargi tant d'horizons sonores qu'il mérite en effet l'appellation.
Le dub est un concept réellement extraordinaire. Faire ce genre de saut mental à partir d'un magma musical jusqu'à créer une sorte de monde total, pur produit issu de ce qu'on peut faire dans un studio. Faire un écho et une réverbération, presque comme dans un lieu où la musique se trouverait. C'est un pas de géant à l'intérieur de la musique. C'est comme créer une sorte de cratère, un cratère géant de possibilités.
En France, Jean-Michel Jarre incarne à lui seul le futur et sa réputation est internationale. Ses symphonies synthétiques, empreintes de sens et d'humanité, font le tour de la planète. Il est même commissionné dans les années 80 par la NASA pour écrire un morceau qui sera joué en apesanteur. Mais le lieu de tous les rêves peut parfois, en quelques secondes, basculer dans le pire des cauchemars.
Ce morceau que j'ai fait, qui devait être joué par Ron McNair, qui était un saxophoniste et qui devait jouer ça au sax dans l'espace. Et en fait, au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, il me disait une chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que dans l'espace, on entend rien. On n'entend que les sons de son propre corps. Donc on entend son battement de cœur, c'est la première chose qu'on entend. Donc j'ai eu l'idée d'enregistrer son battement de cœur pour la rythmique du morceau. Évidemment, après Tragic Challenger, ça a pris un tout autre sens et un tout autre, une toute autre signification.
Dans la foulée de Jarre, les projets synthético-cosmiques se multiplient chez les musiciens des studios français qui ont flairé un filon, pour le meilleur comme pour le pitre.
Si on réécoute cette musique aujourd'hui,